L'abbé Carlos Herrera n'offrait rien en lui-même qui révéla le jésuite. Gros et court, de larges mains, un large buste, une force herculéenne, un regard terrible, mais adouci par une mansuétude de commande. Un teint de bronze qui ne laissait rien passer du dedans au dehors, inspirait beaucoup plus la répulsion que l'attachement. De longs et beaux cheveux poudrés à la façon de ceux du prince de Talleyrand donnaient à ce singulier diplomate l'air d'un évêque. Et le ruban bleu liseré de blanc auquel pendait une croix d'or indiquait d'ailleurs un dignitaire ecclésiastique. Ses bas de soie noire moulaient des jambes d'athlète. Son vêtement, d'une exquise propreté, révélait ce soin minutieux de la personne que les simples prêtres ne prennent pas toujours d'eux, surtout en Espagne. Un tricorne était posé sur le devant de la voiture armoyée aux armes d'Espagne. Malgré tant de causes de répulsion, des manières à la fois violentes et patelines atténuaient l'effet de la physionomie. Et pour Lucien, le prêtre s'était évidemment fait coquet, caressant, presque chat. Lucien examina les moindres choses d'un air soucieux. Il sentit qu'il s'agissait en ce moment de vivre ou de mourir, car il se trouvait au second relais après Ruffec. Les dernières phrases du prêtre espagnol avaient remué beaucoup de cordes de son cœur. Et, disons-le à la honte de Lucien et du prêtre qui, d'un œil perspicace, étudiait la belle figure du poète, ses cordes étaient les plus mauvaises. Celle qui vibre sous l'attaque des sentiments dépravés. Lucien revoyait Paris. Il ressaisissait les rênes de la domination que ses mains inhabiles avaient lâchées. Il se vengeait. La comparaison de la vie de province et de la vie de Paris qu'il venait de faire, la plus agissante des causes de son suicide, disparaissait. Il allait se retrouver dans son milieu, mais protégé par un politique profond jusqu'à scélératesse de Cromwell. « J'étais seul, nous serons deux », se disait-il. Plus il avait découvert de fautes dans sa conduite antérieure, plus l'ecclésiastique avait montré l'intérêt. La charité de cet homme s'était accrue en raison du malheur, et il ne s'étonnait de rien. Néanmoins, Lucien se demanda quel était le mobile de ce meneur d'intrigue royale. Il se paya d'abord d'une raison vulgaire. Les Espagnols sont généreux. L'Espagnol est généreux, comme l'Italien est empoisonneur et jaloux, comme le Français est léger, comme l'Allemand est franc. Comme le juif est ignoble, comme l'anglais est noble. Renversez ces propositions, vous arriverez au vrai. Les juifs ont accaparé l'or, ils écrivent Robert le Diable, ils jouent Phèdre, ils chantent Guillaume Tell, ils commandent des tableaux, ils élèvent des palais, ils écrivent Rice Builder et d'admirables poésies. Ils sont plus puissants que jamais, leur religion est acceptée, enfin, il faut crédit au pape. En Allemagne, pour les moindres choses, on demande à un étranger « Avez-vous un contrat ?» tant on y fait de chicanes. En France, on applaudit depuis 50 ans à la scène des stupidités nationales. On continue à porter l'inexplicable chapeau, et le gouvernement ne change qu'à la condition d'être toujours le même. L'Angleterre déploie à la face du monde des perfidies dont l'horreur ne peut se comparer qu'à son avidité. L'Espagnol, après avoir eu l'or des deux Indes, n'a plus rien. Il n'y a pas de pays du monde où il y ait moins d'empoisonnement qu'en Italie, et où les mœurs soient plus faciles et plus courtoises. Les Espagnols ont beaucoup vécu sur la réputation des morts. Lorsque l'Espagnol remonta dans la calèche, il dit au postillon ces paroles à l'oreille. « Le train de la malle, il y a 3 francs de guide. » Lucien hésitait à monter. Le prêtre lui dit « Allons donc !» Et Lucien monta sous prétexte de lui décocher un argument ad hominem. « Mon père, lui dit-il, un homme qui vient de dérouler du plus beau sang-froid du monde les maximes que beaucoup de bourgeois taxeront de profondément immorales, et qui le sont, dit le prêtre. Voilà pourquoi Jésus-Christ voulait que le scandale eût lieu, mon fils. Et voilà pourquoi le monde manifeste une aussi grande horreur du scandale. Un homme de votre trempe ne s'étonnera pas de la question que je vais lui faire. Allez, mon fils, dit Carlos Herrera, vous ne me connaissez pas. Croyez-vous que je prendrai un secrétaire afin de savoir s'il a des principes assez sûrs pour ne me rien prendre? Je suis content de vous. Vous avez encore toutes les innocences de l'homme qui se tue à 20 ans. Votre question? Pourquoi vous intéressez-vous à moi? Quel prix voulez-vous de mon obéissance? Pourquoi me donnez-vous tout? Quelle est votre part? L'Espagnol regarda Lucien et se mit à sourire. Attendons une côte, nous la monterons à pied et nous parlerons en plein vent. Le vent est discret. Le silence régna pendant quelque temps entre les deux compagnons, et la rapidité de la course aida, pour ainsi dire, à la griserie morale de Lucien. « Mon père, voici la côte, » dit Lucien en se réveillant comme d'un rêve. Eh bien, marchons, dit le prêtre en criant d'une voix forte au postillon d'arrêter. Et tous deux, ils s'élancèrent sur la route. Enfant, dit l'Espagnol en prenant Lucien par le bras, as-tu mérité la Venise sauvée d'Otway? As-tu compris cette amitié profonde, d'homme à homme, qui lie Pierre à Jaffier, qui fait pour eux d'une femme une bagatelle et qui change entre tous les termes sociaux? Eh bien, voilà pour le poète. Le chanoine connaît aussi le théâtre, se dit Lucien en lui-même. Avez-vous lu Voltaire? Lui demanda-t-il. J'ai fait mieux, répondit le chanoine. Je le mets en pratique. Vous ne croyez donc pas en Dieu? Allons, c'est moi qui suis l'athée, dit le prêtre en souriant. Venons au positif, mon petit. J'ai 46 ans. Je suis l'enfant naturel d'un grand seigneur, baptisé en famille, et j'ai un cœur. Mais apprends ceci. Grave-le dans ta cervelle encore si molle. L'homme a horreur de la solitude. Et de toutes les solitudes, la solitude morale est celle qui l'épouvante le plus. Les premiers anachorètes vivaient avec Dieu. Ils habitaient le monde le plus peuplé, le monde spirituel. Les avares habitent le monde de la fantaisie et des jouissances. L'avare a tout, jusqu'à son sexe, dans le cerveau. La première pensée de l'homme, qu'il soit lépreux ou forçat, infâme ou malade, est d'avoir un complice de sa destinée. À satisfaire ce sentiment qui est la vie même, il emploie toutes ses forces, toute sa puissance, la verve de sa vie. Sans ce désir souverain, Satan aurait-il pu trouver des compagnons? Il y a là tout un poème à faire qui serait l'avant-scène du paradis perdu, qui n'est que l'apologie de la révolte. Celui-là serait l'Iliade de la corruption, dit Lucien. Eh bien, je suis seul, je vis seul. Si j'ai l'habit, je n'ai pas le cœur du prêtre. J'aime à me dévouer, j'ai ce vice-là. Je vis par le dévouement. Voilà pourquoi je suis prêtre. Je ne crains pas l'ingratitude et je suis reconnaissant. L'Église n'est rien pour moi, c'est une idée. Je me suis dévoué au roi d'Espagne, mais on ne peut pas aimer le roi d'Espagne. Il me protège, et il plane au-dessus de moi. Je veux aimer ma créature, la façonner, la pétrir à mon usage, afin de l'aimer comme un père aime son enfant. Je roulerai dans ton tilbury, mon garçon. Je me réjouirai de tes succès auprès des femmes, je dirai. Ce beau jeune homme, c'est moi. Ce marquis de Rubempré, je l'ai créé et mis au monde aristocratique. Sa grandeur est mon œuvre, il se tait ou parle à ma voix. Il me consulte en tout. L'abbé de Vermont était cela pour Marie-Antoinette. Il l'a menée à l'échafaud. Il n'aimait pas la reine, répondit le prêtre. Dois-je laisser derrière moi la désolation? Dit Lucien. J'ai les trésors, tu y puiseras. En ce moment, je ferai bien des choses pour délivrer ces chars, répliqua Lucien d'une voix qui ne voulait plus du suicide. Dis un mot, mon fils, et il recevra demain matin la somme nécessaire à sa libération. Comment? Vous me donneriez 12 000 francs? Hé, enfant, ne vois-tu pas que nous faisions 4 lieues à l'heure? Nous allons dîner à Poitiers. Là, si tu veux signer le pacte, me donner une seule preuve d'obéissance, la diligence de Bordeaux portera 15 000 francs à ta sœur. Où sont-ils? Le prêtre espagnol ne répondit rien, et Lucien se dit « Le voilà pris, il se moquait de moi. » Un instant après, l'Espagnol et le poète étaient remontés en voiture silencieusement. Et silencieusement, le prêtre mit la main à la poche de sa voiture. Il en tira ce sac de peau fait en gibecière divisé en 3 compartiments si connus des voyageurs. Il ramena 100 portugaises en y plongeant 3 fois le sa large main qu'il ramena chaque fois pleine d'or. « Mon père, je suis à vous, » dit Lucien ébloui de ce flot d'or. « Voici le tiers de l'or qui se trouve dans ce sac. 30 000 francs, sans compter l'argent du voyage. »« Et vous voyagez seul ?» s'écria Lucien. « Qu'est-ce que cela ?» fit l'Espagnol. « J'ai pour plus de 100 000 écus de traite sur Paris. Un diplomate sans argent, c'est ce que tu étais tout à l'heure, un poète sans volonté. » Au moment où Lucien montait en voiture avec le prétendu diplomate espagnol, Ève se levait pour donner à boire à son fils. Elle trouva la fatale lettre et la lut. Une sueur froide glaça la moiteur que cause le sommeil du matin. Elle eut un éblouissement. Elle appela Marion et Colm. À ce mot, « Mon frère est-il sorti ?» Colm répondit, « Oui, Montane, à franc le jour !»« Gardez-moi le plus profond secret sur ce que je vous confie, » dit Ève aux deux domestiques. « Mon frère est sans doute sorti pour mettre fin à ses jours. Courez tous les deux, prenez des informations avec prudence et surveillez le cours de la rivière. » Ève resta seule, dans un état de stupeur horrible à voir. Ce fut au milieu du trouble où elle se trouvait que, sur les 7 heures du matin, Petit Claud se présenta pour lui parler d'affaires. Dans ces moments-là, l'on écoute tout le monde. « Madame, dit la notre beau cher David est en prison, et il arrive à la situation que j'ai prévue au début de cette affaire. Je lui conseillais alors de s'associer pour l'exploitation de sa découverte avec ses concurrents, les Cointet, qui tiennent entre leurs mains les moyens d'exécuter ce qui, chez votre mari, n'est qu'à l'état de conception. Aussi, dans la soirée d'hier, aussitôt que la nouvelle de son arrestation m'est parvenue, qu'ai-je fait ? Je suis allé trouver messieurs Cointet avec l'intention de tirer d'eux des concessions qui puissent vous satisfaire. En voulant défendre cette découverte, votre vie va continuer d'être ce qu'elle est. Une vie de chicane où vous succomberez, où vous finirez, épuisé et mourant, par faire, à votre détriment peut-être, avec un homme d'argent, ce que je veux vous voir faire à votre avantage dès aujourd'hui avec messieurs Cointet frères. Vous économiserez ainsi les privations, les angoisses du combat de l'inventeur contre l'avidité du capitaliste et la différence de la société. Voyons, si messieurs Cointet paient vos dettes, si vos dettes payées, ils vous donnent encore une somme qui vous soit acquise, quel que soit le mérite, l'avenir ou la possibilité de la découverte, en vous accordant, bien entendu toujours, une certaine part dans les bénéfices de l'exploitation, ne serez-vous pas heureux ? Vous devenez, vous, madame, propriétaire du matériel de l'imprimerie, et vous la vendrez sans doute. Cela vaudra bien 20 000 francs. Je vous garantis un acquéreur à ce prix. Si vous réalisez 15 000 francs par un acte de société avec messieurs Cointet, vous auriez une fortune de 35 000 francs. Et au taux actuel des rentes, vous feriez 2 000 francs de rente. On vit avec 2 000 francs de rente en province. Et remarquez bien que, madame, vous auriez encore les éventualités de votre association avec messieurs Cointet. Je dis éventualité car il faut supposer la succès. Eh bien, voici ce que je suis en mesure de pouvoir obtenir. D'abord, libération complète de David, puis 15 000 francs remis à titre d'indemnité de ses recherches, acquis sans que messieurs Cointet puissent en faire l'objet d'une revendication à quelque titre que ce soit. Quand même, la découverte serait improductive. Enfin, une société formée entre David et messieurs Cointet pour l'exploitation d'un brevet d'invention à prendre après une expérience faite en commun et secrètement de son procédé de fabrication sur les bases suivantes. Messieurs Cointet feront tous les frais. La mise de fonds de David sera à l'apport du brevet et il aura le quart des bénéfices. Vous êtes une femme pleine de jugement et très raisonnable, ce qui n'arrive pas souvent aux très belles femmes. Réfléchissez à ces propositions et vous les trouverez très acceptables. « Ah, monsieur !» s'écria la pauvre Ève au désespoir et en fondant en larmes. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu hier au soir me proposer cette transaction ? Nous eussions évité le déshonneur et... bien pis. » Ma discussion avec les Cointet, qui, vous avez dû vous en douter, se cache derrière mes tiviers, n'a fini qu'à minuit. Mais qu'est-il donc arrivé depuis hier soir qui soit pire que l'arrestation de notre pauvre David ? Demanda Petit Claud. Voici l'affreuse nouvelle que j'ai trouvée à mon réveil, répondit-elle en tendant à Petit Claud la lettre de Lucien. Vous me prouvez en ce moment que vous vous intéressez à nous ? Vous êtes l'ami de David et de Lucien, je n'ai pas besoin de vous demander le secret. Soyez sans inquiétude, dit Petit Claud en rendant la lettre après l'avoir lue. Lucien ne se tuera pas. Après avoir été la cause de l'arrestation de son beau-frère, il lui fallait une raison pour vous quitter, et je vois là comme une tirade de sortie en style de coulisses.